Je vous présente maintenant Jean-Louis Cohen, donc, je demande de nous excuser de cette contrariété là de projecteur. Il est né en 1949, il est architecte, 1973, docteur en histoire de l'art, 1985, habilité à diriger des recherches depuis 1992. Il a été responsable de la section architecture pour l'exposition Paris-Moscou au Centre Georges Pompidou. Il a enseigné depuis 1983 à l'école d'architecture Paris-Villemain. Il a entremêlé, disons, les responsabilités d'enseignement et celles d'historien de l'architecture. En 1987, il était commissaire scientifique de l'aventure Le Corbusier au Centre Georges Pompidou. Depuis 1988-1989, il a conçu avec Bruno Fortier l'exposition permanente Paris, la ville et ses projets au pavillon de l'Arsenal. En 1995, il était concepteur de l'exposition Scène de la vie future au Centre canadien d'architecture. En 1997, l'exposition Les années 30, l'architecture et les arts de l'espace entre industrie et nostalgie au Musée des monuments français. Et puis, depuis 1998, il est chargé par le ministre de la Culture de créer la Cité de l'architecture et du patrimoine dans le palais de Chaillot à Paris. Donc il est architecte et historien, professeur à l'Institut français d'urbanisme, à l'Université Paris 8, etc. etc. Et à l'Institut de Fine Arts de New York University, où il se rend régulièrement. Il est aussi directeur de l'Institut français d'architecture. Ça fait vraiment beaucoup de responsabilités, comme vous voyez. Publication, donc ça c'est peut-être aussi important pour que vous puissiez vous les procurer, si vous avez envie, parce que certains sont aussi des beaux livres. Américanisme et modernité. L'idéal américain dans l'architecture et l'urbanisme en 1993, l'architecture d'André Lursa chez IFA Pierre Marnaga en 1995, Casablanca, mythe et figure d'une aventure urbaine en collaboration avec Monique Hellem chez Azan en 1998. Puis je crois qu'il y a une chose toute récente qui n'est pas mentionnée là, non?
Oui, un livre sur Paris, l'architecture parisienne au XXe siècle, toujours avec Monique Hellem et. L'édition du livre de Siegfried Gideon sur l'architecture en France, construire en France.
D'accord. Bien, alors je lui passe la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite vos questions. Merci.
Bien. Bien, merci beaucoup pour cette introduction flatteuse. Donc merci aussi pour cette invitation à parler d'un domaine. À essayer de comprimer quelques hypothèses sur un champ très vaste comme celui de l'architecture en 50 minutes, tâche sans doute impossible. Merci à l'équipe technique qui réussit au seuil du 21e siècle à maîtriser tant bien que mal les technologies du 19e, puisque la lanterne magique, au fond, c'est une technologie du 19e. Alors, je voudrais commencer ce propos sur l'architecture avec deux images. L'image de la cabane primitive dans l'essai...
Je n'entends pas.
Ah. Alors je parle dans ce micro-là. Donc, oui, je voudrais commencer ce propos sur l'architecture avec deux images. L'image de la cabane primitive frontispice de l'essai sur l'architecture du Père Laugier en 1755 et l'icône qui est la Villa Savoie de Le Corbusier 1930. L'architecture, tout le monde le sait ici, est une activité savante, mais dont les productions ont une présence tout à fait quotidienne. C'est une discipline millénaire dont le XVIIIe siècle a cru voir l'origine dans la cabane des hommes primitifs et qui a connu des changements tout à fait radicaux au cours du XXe siècle. L'échelle, les matériaux, les destinataires de l'architecture ont été profondément renouvelés, mais au fond, la fonction symbolique, le sens social de la discipline sont demeurés tels qu'en eux-mêmes. Lorsqu'un inventeur radical comme Le Corbusier suggère en 1923, sa célèbre définition de l'architecture, une des plus célèbres, un peu usée, comme, je cite, le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sur la lumière, il construit, ce que vous voyez à gauche, une relation intense avec les archétypes grecs qu'il met, vous le voyez à droite, en rapport avec les machines modernes, le Parthénon et l'adelage. La tension que l'on voit ici entre les codes et les schèmes historiques et l'interprétation du monde contemporain n'a depuis cessé d'être, au fond, marquante dans la réflexion sur l'architecture. L'architecture recouvre un ensemble de savoirs qui se relient à beaucoup de ceux qui ont été présentés ici même au cours de l'année. Mais ce sont des savoirs qui n'en possèdent pas moins une certaine, voire une irréductible autonomie. Je distinguerai deux familles de savoirs ici. Les premiers de ces savoirs pourraient être considérés comme externes. Ils portent sur la société, sur les modes de vie, sur la ville. L'architecture, en effet, est une discipline d'observation du monde autant que d'action. Elle établit des connaissances sur les transformations concrètes des territoires, mais aussi sur les techniques, sur leur interprétation et sur la pratique de l'espace. Puis-je avoir laissé celle de droite ? Je change celle de gauche seulement pour le moment. Voilà. Ainsi, au cours du XXe siècle, du domaine de l'architecture, du champ de l'architecture, sont venues des interprétations visuelles, des théorisations quant aux objets ou aux paysages du monde contemporain. Ainsi, Le Corbusier, toujours lui, son spectre sera présent à plusieurs reprises dans cet exposé. Le Corbusier met en cause, en 1922, c'est une formule assez nietzschéenne d'ailleurs, des yeux qui ne voient pas. Des yeux qui ne voient pas quoi ? Eh bien, les objets techniques qui vont fasciner sa génération. Ici, des yeux qui ne voient pas combien le frein avant de la fameuse Delage peut être important dans une problématique de la beauté moderne. La suivante à droite. En 1972, donc un demi-siècle plus tard, Robert Venturi réussit à rendre perceptible la dimension expérimentale, la dimension prophétique du paysage de Las Vegas. Aujourd'hui, Rem Koolhaas, architecte néerlandais dont je parlerai plus loin, à nouveau, observe les transformations urbaines fulgurantes des villes de Chine ou des villes d'Afrique, fait office de reporter. Et cela fait aussi partie de ce que j'appellerais l'identité de l'architecture contemporaine. Les architectes ont aussi su observer les transformations qui sont intervenues, et ô combien dans la sphère de l'intimité, avec l'introduction des préoccupations hygiéniques, des exigences fonctionnelles ou de nouvelles formes de l'hédonisme domestique, et ont proposé de nouvelles relations entre l'intérieur et l'extérieur. Ils ont proposé ces nouvelles idées en s'appropriant les méthodes. L'architecture est une discipline cannibale, vorace. Ils se sont appropriés les méthodes de l'organisation scientifique du travail, dans les années 20, les méthodes du taylorisme ou celles de la psychologie de la perception. Enfin, l'expérimentation architecturale s'est alimentée au savoir de l'ingénierie sur les structures et sur les matériaux et sur les réseaux. À côté donc de cette appropriation des réalités et des modes de pensée extérieurs, qu'elle a toujours pratiqué, l'architecture établit aussi des savoirs internes, des savoirs qui portent sur l'histoire de la discipline, sur ces concepts spécifiques, ces catégories de pensée dont la mise en cause a été continue tout au cours du XXe siècle. Ces savoirs portent aussi sur les modes de composition totalement bouleversés par le contact avec les techniques contemporaines et avec l'art moderne. À gauche, la maison Schroeder de Rietveld en 1924, donc le produit le plus achevé des idées du groupe de Stijl en architecture. À droite, le pavillon de Mies van der Rohe à Barcelone. Les images, malheureusement, sont un peu baveuses et un peu bleuâtres, mais c'est dommage. Donc, deux images de ces nouveaux espaces. La rupture avec les stratégies mimétiques de reproduction des styles que l'on voit ici a conduit à la formulation de nouvelles esthétiques qui ont évacué l'ornement et les hiérarchies conventionnelles. En réaction contre l'historicisme du XIXe siècle, l'architecture moderne, c'est à ce propos longtemps abandonné à la tentation de la table rase, du nihilisme, tant à l'échelle des villes, évacuer toutes les traces du passé, qu'à celle de l'édifice, évacuer toutes les figures héritées de l'histoire. La figure inaugurale de cette attitude, c'est la lecture que fait Le Corbusier de Zarathoustra, du Zarathoustra de Nietzsche, lecture dans laquelle il souligne de sa plume en 1907 que c'est le destructeur qui sera le créateur. La reconstruction aujourd'hui d'une relation critique à l'histoire est un des enjeux fondamentaux, en revanche, de la pratique contemporaine. Art spatial, l'architecture forme le cadre de la vie quotidienne. La tension entre le jeu sur les formes et les enjeux internes à la discipline, d'une part, et d'autre part, l'attention aux attentes des habitants, des citoyens, traverse toute la production du XXe siècle. Et on sait bien que les expérimentations techniques et plastiques laissant entrevoir l'avenir des villes, les rêveries des architectes, n'ont pas toujours abouti à des édifices réussissant à être des supports d'identité pour les citoyens. Et ce n'est pas qu'une question d'esthétique. La suivante. Certains édifices aux formes iconoclastes, le club Roussakov de Melnikov à Moscou en 1929, ou l'école Karl Marx de Lursa à Villejuif en 1933, certains édifices qui ne ressemblaient en rien à un bâtiment public traditionnel ou à une école Jules Ferry, ont connu une réception positive dès lors qu'ils étaient perçus comme les indices d'une modernisation acceptée, voire revendiquée. Dès lors qu'ils étaient perçus comme synonymes d'exclusion, ils ont au contraire, et parfois ce sont les mêmes éléments linguistiques, été rejetés par plusieurs générations de destinataires. Dresser une cartographie des principales orientations coexistant dans le monde d'aujourd'hui n'est pas une tâche facile, et je n'aurai pas le temps de le faire ici. Il me faudrait sans doute 370 journées pour y arriver, et encore. Certains clivages entre courants d'idées sont irrémédiables, tandis que certaines convergences implicites, latentes, demandent à être révélées. En plus, et ce sera sur ce point que je m'arrêterai un peu, l'architecture n'échappe pas aux tensions entre culture locale et culture nationale, d'une part, et ce qui se passe sur la scène mondiale. Et cette relation délicate entre, je dirais, les théâtres architecturaux locaux et les théâtres planétaires mérite d'être évoquée ici avec une certaine précision. Le fait que l'architecture ne connaisse plus ou pas les frontières n'a rien pour surprendre. Ça n'est pas nouveau. Encore une fois, Louis XIV, en 1666, a fait venir le Bernin pour travailler sur le Louvre. C'était la dernière fois qu'un architecte étranger était invité par l'État à construire, avant Piano et Rogers, pour le Centre Pompidou en 1971. Donc c'est un geste sans lendemain, mais ça n'est pas nouveau. Donc l'intensification de la circulation des discours, des projets et des professionnels eux-mêmes atteint au terme du XXe siècle un seuil qualitativement nouveau. Et je crois que toutes les implications de ce phénomène sont loin d'avoir été pensées. L'affirmation d'une dimension internationale dans la internationale, ça n'est pas la même chose que de faire venir le Bernin à travers les Alpes. Dans la réflexion sur l'architecture et dans l'invention de projets, n'a pas attendu un moment qui est considéré comme très important en général, qui est l'émergence aux États-Unis en 1932, grâce à une exposition polémique du Musée d'Art Moderne de New York, du style dit international. En fait, cette dimension était prise en compte sur la scène architecturale avant la fondation d'autres groupements comme l'International Constructiviste de 1922 ou les Congrès internationaux d'architecture moderne en 1928. On voit à gauche leur première réunion, version sérieuse pour la photo officielle à gauche, version farce pour le bal masqué le soir à droite. On reconnaît ici, où est-il, Le Corbusier en train de faire le clown. Donc, d'une manière générale, dès le début de l'agonie du style, celui-là véritablement international, qu'était l'éclectisme des beaux-arts, qui a abouti à la construction de palais historicistes en Amérique latine, en Asie, en Amérique du Nord, et en Afrique du Nord et partout. Donc, avant même l'agonie de ce style, des réseaux réformateurs existaient à l'échelle de la planète, dans le domaine de l'urbanisme, où on les connaît bien, dans le domaine de l'habitation, dans le domaine de l'hygiène. Indépendamment de ces réseaux ou de ces amicales qui traversent les frontières, cette expérience de la circulation mondiale des architectes s'inscrit dans une longue histoire. Italiens et Français ont construit Saint-Pétersbourg et nombre d'Amérique latine. Au début du XXe siècle, les experts de l'art urbain se sont déplacés de métropole en capitale entre 1900 et 1940. On voit à gauche les dessins de Léon Jossely, architecte parisien pour Barcelone, remporte un concours pour l'extension de Barcelone en 1905. On voit à droite les idées d'Agache, autre architecte français, pour le centre de Rio, un plan de 1929 qui a beaucoup transformé la capitale brésilienne de l'époque. Dans la phase qui suivra, donc dans la période héroïque du moderne, l'image même de l'architecte va se transformer et préciser un profil qui était présent tendanciellement avant 1914, qui est le profil de l'expert, l'architecte comme expert, traversant le monde à l'époque sur des paquebots pour donner en deux jours son avis sur le destin d'une ville. Alors, les pérégrinations de Le Corbusier en la matière sont assez comparables à celles de Tintin dans les albums d'Hergé. On le voit à gauche avec le roi de la chaussure tchèque. Ici, Le Corbusier se penche sur la vallée de Zlín en Moravie lorsqu'il est invité par le roi de la chaussure tchèque, Bata, à faire un projet pour lui. Et on le voit à droite, c'est une page du New York Herald. À New York, regarder vers le haut les gratte-ciels et trouver qu'ils sont minables et trop petits pour essayer d'arracher la commande d'un de ces édifices. Donc, expert auto-désigné de la réforme urbaine, Le Corbusier multiplie les projets inventés à l'issue d'une inspection très brève des villes de l'Ancien et du Nouveau Monde. Et dans les années 30, les soubresauts de l'histoire vont intensifier ce mouvement. Ils amèneront nombre d'Européens à se lancer sur les routes dans ce que j'appellerais une grande dissémination des idéaux modernes. Des fraternités d'anciens des ateliers parisiens de Perret ou Le Corbusier, d'anciens des Bauhaus de Dessau ou de Berlin, vont se créer ainsi du Pacifique à l'Oural, de Los Angeles à Magnitogorsk. Dès lors, après la Seconde Guerre mondiale, que les doctrines modernes rencontrent les grandes campagnes de modernisation étatique ou capitaliste, elles contribuent dans une certaine mesure à l'entreprise d'uniformisation qui n'a pas attendu la diffusion des McDonald's, qui affecte alors l'ensemble des pays développés. Réaction extrêmement intéressante, extrêmement éclairante aujourd'hui, dès ce moment, dès la fin des années 40, de jeunes rebelles à l'intérieur du mouvement pour l'architecture moderne, ceux qui se regroupent à l'intérieur d'une équipe que l'on appellera le Team Ten, parce qu'il est censé préparer le 10e congrès de CECIAM. Ces jeunes rebelles s'intéressent à tous les thèmes qui permettent l'émergence d'une architecture moderne locale. Un exemple à gauche, c'est le projet de l'équipe de Candilis, Josic et Josic pour de l'habitat musulman au Maroc, qui peut être considéré comme un hybride entre les projets de Le Corbusier et les casbahs berbères. À droite, le travail des Smithson, jeunes architectes anglais, qui s'intéressent aux conditions de vie dans les ghettos ouvriers de l'East End de Londres. Au début des années, donc, ces idées du Team Ten vont être très importantes et vont alimenter, pour une part, les internationales, les réseaux idéologiques et les internationales et studentines qui seront actives dans la préparation et le déroulement des révoltes des années 60. À la fin des années 70, une nouvelle problématisation des rapports entre le local et le mondial est proposée par deux chercheurs qui opèrent à l'époque en Hollande, Alex Zonis et Liane Lefebvre, qui relisent certaines thèses de Lewis Mumford, critique américain hostile au moderne vulgaire des années 50. Et ces critiques conduiront à la formulation de l'idée d'un régionalisme critique, d'une alternative à l'uniformité moderne, dénommé régionalisme critique. Ce thème est développé par Kenneth Frampton, critique d'architecture anglais, qui revendique à ce moment-là la caution philosophique de Paul Ricoeur. Et cette figure du régionalisme critique, fondée sur une opposition entre la configuration locale des valeurs et des architectures et les systèmes planétaires, permet de comprendre beaucoup des figures du postmodernisme qui apparaît dans l'architecture dans les années 80. Dès ces années-là, de nouvelles solidarités apparaissent en effet. La plus notable est celle qui rassemble les partisans de ce qui s'appelle à l'époque la reconstruction de la ville européenne contre la destruction de cette ville par les grandes rénovations urbaines. À gauche, un projet, un ensemble coordonné par Rob Krier à Berlin en 84. À droite, toujours à Berlin, je m'excuse de la diapo baveuse et bleuâtre, car le rouge est extraordinairement fort, rouge de la brique. C'est un projet d'Aldo Rossi, aussi à Berlin. Donc cette internationale de la reconstruction de la ville européenne permet de renouveler fondamentalement la réflexion sur le rapport entre l'édifice et la ville. Les convergences entre ces équipes qui travaillent en Italie ou en Allemagne seront révélées par beaucoup d'expositions dans les années 80. Il est à noter que certains des architectes qui partagent ces positions, reconstruire la ville continue, ne sont pas pour autant des nostalgiques de la ville continue. Ce sont des architectes qui sont capables. On pourrait peut-être essayer de pousser un peu ça pour pas trop. Je ne sais pas si c'est possible, non ? Pousser un peu l'écran de droite pour pas que ça contamine trop l'image de gauche. Oui, il y a un trou, non ? Bon, non, alors tant pis. Restons-en, on en était. Donc, nous voyons à gauche un projet d'Alvaro Siza construit à Évora, qui est un quartier neuf qui s'appuie sur les infrastructures romaines. À droite, le musée de Mérida de Rafael Moneo, pas très loin d'Évora, dans le sud-ouest de l'Espagne, qui lui aussi s'appuie sur des substructures romaines, mais pour proposer des espaces qui sont tout à fait différents. Il y a donc, dans ces démarches, à la fois la volonté d'être attentif aux traces anciennes et, dans le même temps, un travail plastique qui n'est pas du tout nostalgique. Donc, ce que l'on voit ici, c'est l'émergence d'une problématique architecturale qui n'abandonne pas complètement le bilan de l'architecture des modernes. Certaines des attitudes qui apparaissent dans le cadre du postmodernisme et en réaction contre le postmodernisme me semblent dessiner ce que je nommerais non pas régionalisme critique, mais internationalisme critique. Elles ne tendent pas, ces attitudes, à réhabiliter naïvement le métadiscours du progrès dont Jean-François Lyotard constatait l'épuisement, idées qui ont eu beaucoup d'influence en architecture. Mais ces attitudes se fondent sur une convergence de positions et de stratégies et sur une culture commune à plusieurs groupes d'architectes qui opèrent sans s'arrêter aux frontières politiques ou géographiques. Chez ces architectes, la recherche de la spécificité locale, faire une architecture ancrée localement, qui était une des démarches constitutives du régionalisme critique, n'exclut pas des positions transversales qui définissent une sorte d'espace intellectuel commun. L'internationalisme critique est une sorte d'adaptation créative au phénomène de l'internationalisation des marchés de la conception et à l'ouverture des sites urbains. Ce phénomène a été renforcé en Europe par l'ouverture du grand marché de 1993, mais il n'en découle pas, évidemment. Je répète que l'internationalisation des débats théoriques n'est pas récente. En tant que telle, elle a connu des moments intenses dès les années 50. Elle atteint aujourd'hui de nouveaux seuils, tandis que la circulation des images ne cesse de s'intensifier dans les périodiques et dans l'édition. En fait, la notion d'expertise, dont je parlais tout à l'heure, telle qu'elle était apparue au tournant du siècle, dans les années 30, a été infléchie par une médiatisation renforcée des déplacements professionnels. C'est parfois plus un deus ex machina qu'un architecte qui semble être attendu pour dénouer des situations locales et dépasser les conflits entre groupes d'idées ou d'intérêts. Deux exemples tragiques. À gauche, le concours de l'Opéra Bastille, où le jury croit commander un projet à Richard Meyer et se trompe, et donc commande un très mauvais projet à un architecte moyen. À droite, le maire de Barcelone commande directement un projet à Meyer, qui est un très mauvais projet de Meyer, le musée d'art moderne, pour être conforme aux critères du temps. Les mésaventures des jurys, donc, qui cherchent désespérément à identifier les stars dans les concours anonymes, Meyer pour l'Opéra de Paris, ou plus récemment Siza pour le musée de Séoul, autre erreur, montrent bien les limites de ces procédures pseudo-égalitaires qui tendent à découvrir les génies cachés. Une autre figure de l'internationalisation, c'est celle que l'on voit à droite, est la politique des commandes d'architecture rassemblés en vraie grandeur par certaines villes européennes, Francfort, Berlin, Barcelone, Genève sans doute, villes engagées dans une médiatisation exacerbée par leur concurrence concrète ou symbolique. Tout se passe comme si les choix architecturaux, en particulier à l'échelle de l'édifice culturel, du musée par exemple, tendaient à permettre à chaque ville de disposer d'une sorte de collection d'architecture contemporaine, comme si elle se proposait d'accrocher dans un musée une œuvre des maîtres du moment. On sait que chaque musée, dans une ville digne de ce nom, accroche un Picasso, un Klee et installe un tas de feutres de Joseph Beuys. Chaque zoo range dans ses cages un rhinocéros, une girafe, un ours blanc. De façon mimétique, chaque ville semble aspirer aujourd'hui à présenter un menu dégustation composé à partir du hit parade architectural du moment. Dans le temps, c'était en termes de programme et d'esthétique que les choses se jouaient. Vienne avait un hôtel de ville au XIXe siècle, un hôtel de ville dans le gothique flamand, un opéra baroque, une université dans une écriture de la Renaissance. Aujourd'hui, ces écritures différenciées sont attachées à des figures de l'architecture contemporaine. Les sites les plus accueillants pour ces sortes de ménageries architecturales ont été l'IBA, l'exposition de Berlin dont j'ai parlé, cette même ville ayant plus de difficultés après la réunification, à se penser comme un centre européen. Le Paris des projets grands et moyens, Vienne, certaines villes japonaises, avant l'implosion de la bulle financière. Cette caricature d'internationalisation, à gauche, nous voyons le projet, le bâtiment de Piano, bâtiment Debis à la Potsdamer Platz à Berlin, cette caricature d'internationalisation a eu, dans certains cas, l'effet de paralyser les entreprises ébauchées pour reconstruire une identité urbaine plus complexe que la juxtaposition des gestes isolés, quelle qu'en soit la qualité, voire la beauté. Au-delà de ces opérations ponctuelles, je dirais que l'internationalisation des pratiques et des procédures connaît des modalités nouvelles. À droite, vous voyez cette page de Paris Match figurant ces architectes français qui dressent leurs plans sur la planète. Sans attendre le grand marché européen, à un autre niveau, la circulation des étudiants s'est intensifiée au point de permettre, grâce à des programmes comme Erasmus, une sorte de formation en alternance entre l'école de base de beaucoup et les écoles d'accueil. Des concours très intéressants de jeunes architectes, comme les Europans, ont permis non seulement de déplacer les jeunes concepteurs d'un cadre national à un autre, mais bien de leur donner l'occasion de construire à l'étranger leur première œuvre. Un Néerlandais construisant à Graz, un Allemand en Espagne, etc. Enfin, la circulation des enseignants est devenue, par les généralisations des chaires de professeurs invités et l'ouverture des établissements à des visiteurs de divers types, une donnée stable du panorama pédagogique. De plus en plus de professionnels auront donc aujourd'hui, et je crois que cette condition mérite d'être méditée, j'y insiste, des pratiques traversant les frontières, constituées en réponse à des procédures très diverses, des concours, des expositions, des séquences d'enseignement, des partenariats professionnels, des stratégies d'exportation des entreprises, Bouygues se déplaçant avec ses architectes. Une nouvelle méthode de conduite à distance, encouragée par les technologies nouvelles, de conduite à distance des agences et des projets apparaît que la modernisation donc, des moyens de communication facilite. Des croquis conceptuels que Rem Koolhaas élaborait il y a 25 ans pour Oswald Matthias Ungers, architecte allemand, dans les aéroports, au dessin que l'architecte japonais Maki élabore dans ses vols transatlantiques, une sorte de jet architecture, voire une architecture du jet lag, émerge depuis les années 70, dans laquelle l'idée ou l'idéogramme compte parfois plus que le principe spatial. Les modalités de l'internationalisation des pratiques et des cultures ne correspondent plus cependant à la configuration conflictuelle que suggérait le schéma de Frampton entre structures locales et dispositifs globaux. Il n'y a plus un dispositif unique et uniformisateur qui s'opposerait aux scènes locales, mais un ensemble plus complexe de relations coexistant sur des plans différents. Les centralités thématiques changent au gré des programmes de construction et en fonction de la vitalité des pôles intellectuels que sont certaines villes ou certaines écoles. À certains moments, une école à Londres, à d'autres moments, une commande publique à Barcelone ou à Berlin. Des dispositifs bipolaires émergent aussi et permettent des transferts, comme dans le cas de l'Italie et de la France dans les années 70, ou des Pays-Bas et de l'Amérique aujourd'hui, pourquoi pas. Quelles sont donc les positions ou les stratégies sur lesquelles se fonde ce que je propose de dénommer l'internationalisme critique ? Cette attitude ne procède plus d'une sorte d'attitude défensive face à la menace d'une modernisation uniformisatrice. Pas non plus d'une posture utopique, mais plus d'une stratégie, selon les cas, de résistance ou d'accompagnement du marché. Dans ce cadre, les nouveaux internationalistes partagent plusieurs types de convictions qui ne constituent pas une sorte de programme cohérent, fermé, mais plus un répertoire ouvert. Ils revendiquent en particulier, en opposition au passéisme assez vulgaire du postmodernisme, un certain retour au mouvement moderne, un terme extraordinairement ambigu, un terme de propagande plus qu'un terme scientifique que j'utilise par commodité. Retour au moderne qui s'accompagne éventuellement de certaines illusions sur les formes modernes, de simplification de celles-ci, voire de falsification dans sa compréhension. Ce retour est parfois fétichiste lorsque le retour au moderne, c'est le retour au pilotis ou au plan libre. Il est en général sincère et il tend à privilégier le souci d'une architecture inscrite dans les rythmes et les matières du second âge industriel. Alors, un exemple qui est un exemple comme un autre, deux exemples français, le palais de justice de Yves Lion à Nantes à gauche et son rapport avec la cathédrale, les jardins d'eau d'Alexandre Chemetov à Nancy, texture qui dans les deux cas lie le, le cadre urbain et construisent des relations entre la ville et les édifices. Les internationalistes critiques n'opposent pas à cette première position, donc le retour moderne, la formulation d'un rapport de subordination entre la ville et l'architecture. C'est une attitude qui s'affranchit de la nostalgie pour la ville médiévale ou pour la ville classique, tout autant que des simplifications mutilantes de l'urbanisme fonctionnaliste. Une prise en compte des enjeux liés au paysage accompagne cette attitude. Le regard ainsi porté sur le cadre spatial de l'architecture n'est pas nécessairement fondé sur le rejet total de l'architecture des générations immédiatement précédentes et une certaine reconnaissance de la qualité de l'architecture moderne vernaculaire d'après 1945 n'est pas rare. Autre dimension notable, et très importante aussi, l'intellectualisation du travail architectural n'est plus en tant que tel un combat pour ces nouveaux internationalistes. Éclectique et parfois instrumental, le rapport avec la culture intellectuelle est une donnée de fait. Les architectes se sont mis à lire, parfois faire des lapsus de lecture, mais ils lisent. Ce n'est plus une velléité, tant la formation des architectes a changé depuis 30 ans. La rénovation culturelle intervenue depuis lors est intériorisée et ne fait plus, sauf dans certaines situations américaines, l'objet de manifestations de ce que j'appellerais l'hystérie théorisante, c'est-à-dire la revendication violente de tel ou tel précédent intellectuel. La forte présence d'une connaissance précise du cinéma et des problématiques de l'art contemporain contribue aussi à former cette nouvelle identité professionnelle. Insérée dans les configurations mouvantes du marché mondial, puisqu'il y a marché d'une architecture savante et expérimentale, bien sûr, soyons lucides, une part extrêmement marginale de l'ensemble de la production du bâtiment, ces projeteurs partagent, sinon la croyance dans la possibilité de mener une pratique conduisant à la refondation théorique, au moins la conviction qu'une pratique critique, qu'une pratique qui rompt avec une attitude commerciale serait possible. Alors, dans ce cadre, on peut évoquer toute une série de démarches que je ne montrerai pas, ce serait trop long. Les positions de Cisa au Portugal ou de Monet au dialogue à propos de la permanence des tracés urbains ou des types de bâtiments. Je crois quand même que j'ai une image de Cisa ici, oui, à Évora, et une autre image de Cisa qui est l'école d'architecture de Porto sur la colline, sur la falaise au-dessus du Douro. La relecture critique ou intuitive du rationalisme des années 30 réunit les Balois, mais aussi beaucoup de Néerlandais et nombre de Parisiens. On trouve un géométrisme rigoureux d'un degré d'autonomie variable par rapport au lieu chez un Japonais comme Ando ou certains Portugais de Porto. Bref, des résonances en diagonale entre individus distants de quelques heures d'avion se manifestent ainsi de plus en plus clairement. Qu'en est-il, et j'aborde une deuxième et dernière partie de mon propos, qu'en est-il dans ces conditions du partage, ce que j'appellerais le partage, du domaine de l'architecture, dont la finalité est en définitive civique, entre professionnels et citoyens? Jamais sans doute les architectes ont été autant maudits par les citoyens qu'à l'époque contemporaine, où la médiocrité fonctionnelle et la misère visuelle de certains grands ensembles ou de certaines rénovations urbaines sont venues souligner, accentuer, je dirais même franchement aggraver, ou commenter de manière ironique et cruelle la pauvreté et l'exclusion. Mais les considérations esthétiques ont également fait l'objet d'une sorte de dialogue souterrain entre architectes et citoyens, dans lesquels la tension entre l'élitisme et le populisme n'a jamais cessé. À gauche, la maison de Loos de 1910 sur la Michaelerplatz à Vienne, à droite, le bâtiment du Centre Pompidou. Une veine élitiste traverse en effet la production architecturale, dès lors qu'elle se définit avant tout comme une production artistique, en rupture avec les stéréotypes visuels les plus répandus. L'ironie populaire quant aux maisons sans ornement de Loos à Vienne ou de Le Corbusier, ou plus récemment encore face au Centre Pompidou, surnommé par dérision, on le sait, Notre-Dame des tuyaux, est l'indice d'une telle rupture. La conscience de ce conflit a conduit à des esthétiques populistes. À gauche, Robert Venturi, une des maisons construites à Nantucket sur le modèle des petites maisons de la côte nord-est des États-Unis. À droite, Port Grimaud de François Spoerry. Donc la conscience de ce conflit conduit à des esthétiques populistes, elles-mêmes très, très variées, du néoréalisme italien des années 45, de Quaroni, Ridolfi et autres, qui est une attitude qui se raccorde très clairement au cinéma et à la littérature, très très prémédité intellectuellement, avec ses allusions à la construction rurale, jusqu'au jeu sur les maisons vernaculaires que l'on voit ici, et aux citations de Spoerry. Dans l'ensemble, les tentatives répétées pour déplacer dans le champ de la construction publique ou de l'habitation des matériaux, des textures issues de l'industrie automobile, par exemple, ou de l'aéronautique, se sont soldées par des échecs dans la perception populaire des bâtiments. Celle de gauche seulement, ne changez pas tout de suite. Ici, l'exemple de la maison du peuple de Clichy, de Baudouin, Lotz et Prouvé, qui utilise pour un bâtiment les techniques de la construction aéronautique des années 30, de la construction automobile. Les maisons de Buckminster Fuller après la guerre, qu'il entendait faire produire par des usines d'avions. Et les tentatives plus récentes pour faire des maisons individuelles qui n'ont pas un toit à deux ou quatre pentes montrent bien les difficultés qu'il y a à communiquer cette esthétique aux citoyens. C'est autour donc de l'opposition entre l'image et l'usage, entre l'esthétique extérieure, notamment les images et les usages, que se joue aujourd'hui la relation entre citoyens et architectes. Le soupçon d'incompétence des architectes devant les usages les plus prosaïques n'est pas neuf, et je n'ai nul besoin de vous rappeler ce que Flaubert notait dans son dictionnaire des idées reçues quant aux architectes. Les fondateurs, je le rappelle pour ceux qui l'ont oublié, architectes, imbéciles, oublient toujours l'escalier dans les maisons. Donc cette idée que les exigences les plus fondamentales, les plus basiques, sont méprisées par les architectes, font partie de la sagesse populaire. Les fondateurs des différents courants du mouvement moderne ont pourtant précisément investi ces questions de l'usage. L'image de droite, merci, nous montre le Bauhaus de Dessau, de Gropius, construit en 1925. Les fonctionnalistes ont déduit de l'observation des parcours et des types d'activités la forme même des édifices. Le Bauhaus, c'est un bâtiment qui n'est pas unitaire, mais qui est découpé en volumes dans lequel chaque volume, celui des ateliers largement vitrés, celui des logements derrière qui l'est moins parce qu'il abrite des chambres, celui des classes l'est de façon intermédiaire, donc chaque volume est je dirais, modelé autour de ses usages. Les fonctionnalistes ont donc déduit de l'observation des parcours et des types d'activités la forme même des édifices, faisant voler en éclats la boîte unitaire et fermée, ou reconstituant, c'est le cas avec la maison du peuple de Clichy, la boîte, l'idée du bâtiment unitaire, mais en l'investissant par des dispositifs mobiles dans le temps. La maison du peuple de Clichy est infiniment transformable, ouvrable, flexible à l'intérieur. Les opposants à cette démarche ont proposé une sorte de formalisme moderne, donc aboutissant parfois à des solutions dont le lyrisme a su toucher le public. Je prends ici l'exemple de l'architecture de Niemeyer ou des modernes brésiliens, au détriment parfois d'une certaine transparence vis-à-vis des usages. Une autre démarche, enfin, a consisté à abandonner toute ambition plastique et à produire, à l'écoute des attentes des usagers, une architecture qui ne se posait pas la question de la forme. Peut-on l'appeler une architecture de l'informe par analogie à certaines positions artistiques ? J'en suis pas sûr. Les réflexions contemporaines ne prolongent pas directement ces approches. Des démarches innovantes très nombreuses portent sur la transformation de l'usage des espaces. Dans l'habitation, elles portent sur la relation à l'extérieur, de nouvelles perméabilités entre intérieur et l'extérieur, sur la flexibilité, c'est-à-dire la transformation dans le temps, sur la mixité, c'est-à-dire la cohabitation de groupes sociaux différents, sur le confort, sur de nouvelles spatialités, rendant par exemple beaucoup plus d'ampleur à des espaces comprimés dans le passé, comme la cuisine ou la salle de bain. Ces recherches portent aussi sur les espaces collectifs, sur les lieux de l'enseignement, sur les lieux de la culture et aussi sur les lieux du tourisme, première industrie mondiale désormais. L'invention programmatique, qui se fait jour dans nombre de projets, a été stimulée par la commande publique, notamment en France ou aujourd'hui aux Pays-Bas. Mais l'attention aux usages ne va pas nécessairement de pair avec l'attention à l'invention formelle. Un exemple qui est un immeuble construit à Saint-Nazaire, qui s'appelle la maison Radu. Une expérience de mixité sociale édifiée à la fin des années 90, qui est extraordinairement intéressante et complexe, mais qui choque plutôt dans le paysage de Saint-Nazaire. Difficile donc de soupçonner la qualité de ses ressources internes. À une autre échelle, dans un cadre très différent, le Grand Palais construit par Rem Koolhaas à Euralille, à gauche, dans ce nouveau quartier, donc à proximité du centre de Lille, associe de façon extraordinairement inventive l'espace du congrès que l'on trouve à gauche ici, l'espace du palais des expositions que l'on trouve à droite, mais sans pour autant suggérer, parce que ça n'est pas la problématique de Koolhaas, l'image aboutie d'une nouvelle institution. Inversement, certains architectes en arrivent à privilégier apparence extérieure, image globale, au détriment du confort d'usage ou tout simplement de la rationalité des édifices. C'est le cas chez certains postmodernes. On le voit avec Ricardo Bofill, son édifice de la place de Catalogne à Paris, où les ordonnances très solennelles, d'ailleurs assez étranges, transformées des colonnes qui sont des formes pleines en formes vitrées et non porteuses, est une sorte de solécisme architectural. Donc, les colonnes ici grandioses cachent des espaces intérieurs, parfois des appartements, parfois mesquins. Autre exemple de disjonction entre apparence extérieure et usage, on les connaît, c'est la Bibliothèque nationale de France de Dominique Perrault à gauche et à droite, cet espace très étrange qui est l'interstice séparant la coque du studio national construit par Bernard Tchoumi au Frénois, des petites maisons qui l'englobent. Donc la construction d'espaces inutiles, d'espaces impraticables, d'espaces dangereux est aussi malheureusement une conséquence, je ne condamne pas totalement la bibliothèque de ce point de vue-là, mais seulement en partie, est une conséquence de cette friction parfois malheureuse entre image et usage. Un équilibre instable règne parfois entre les principes d'usage et des enveloppes inattendues et arbitraires, mais qui ne sont pas pour autant inhabitables. Deux exemples contemporains, le hall 2F de Roissy de Paul Andreu et Peter Rice a une forme très déterminée, une forme organique dénommée péninsule, mais qui est modelée autour de la pratique du voyageur, dont les parcours sont sans doute peut-être un peu étendus. Le musée Guggenheim de Frank Gehry à Bilbao est un édifice dont les galeries sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus rationnelles que ce que le mouvement d'ensemble de l'édifice à l'extérieur pourrait faire penser. De la même manière, si l'on va dans le domaine de l'habitation, les dispositifs extérieurs tout à fait étonnants à gauche de l'ensemble Nemosus de Jean Nouvel et Jean-Marc Ibos à Nîmes abritent des espaces domestiques généreux et inventifs, de très grands logements sociaux. Une contradiction d'un autre ordre, je passe simplement celle de gauche pour le moment, est tangible avec cette maison en amiante ciment et onduline construite par Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal à Floirac, à côté de Bordeaux. Maison qui est jugée incongrue par les voisins du fait de son apparence austère, donc cet aspect de hangar agricole, et qui est en revanche aimée de ses habitants, à qui elle offre un intérieur d'une ampleur inhabituelle à un prix imbattable. En réaction à ces tentatives, l'hypothèse d'un respect des codes de la banalité extérieure, respect qui ne met pas en cause les exigences de l'invention spatiale à l'intérieur, est formulée par de plus en plus d'architectes, l'idée d'une sorte de banalité radicale. Au total, de vives contradictions traversent aujourd'hui la production architecturale en Europe, pour ne rester que dans le vieux monde. Contradiction dont il est extraordinairement difficile de donner une image synthétique. Je viens d'évoquer cette question délicate de l'ajustement entre l'image et l'usage. Mais la relation entre l'édifice et la ville, ou l'édifice et le paysage, n'est pas moins complexe, surtout à un moment où les transformations auxquelles nous assistons rendent obsolètes l'escansion traditionnelle des territoires entre l'urbain défini et le rural vide. Il s'agit là aussi d'une question d'ajustement, bien plus que d'intégration dans de nouveaux réseaux, bien plus que d'intégration entre l'édifice et l'espace environnant. Le bâtiment pouvant autant condenser une interprétation de sa condition territoriale que les territoires permettre la définition de nouvelles règles architecturales. Une autre contradiction évidente, et je vais vous demander la dernière image à droite, est celle qui oppose l'écriture personnelle des architectes et l'appropriation collective des édifices. À droite, l'unité d'habitation de Le Corbusier à Marseille, c'était la maison du Fada. C'était un lieu stigmatisant dans les années 50. Aujourd'hui, habiter Le Corbusier, comme on dit à Marseille, est au contraire un signe classant positif pour dentistes, psychanalystes et architectes. Donc, dans certaines conditions, ou habité chez Nouvelle éventuellement à tel ou tel endroit, est aujourd'hui un signe classant favorable. Parfois, la présence d'un architecte identifiable et que l'on pouvait maudire a pu, dans certaines conditions urbaines et sociales, condenser le mécontentement des habitants. Un populisme d'un ordre un peu différent de celui évoqué plus haut est apparu dans les années 60, qui entendait, en quelque sorte, et je ne pense pas que ce soit une démarche totalement obsolète aujourd'hui, donner le crayon aux habitants, c'était l'expression de l'époque, attitude qui a parfois abouti à des ensembles réussis dans lesquels l'architecte s'effaçait comme créateur de forme, comme modeleur de forme extérieure, pour devenir un facilitateur. C'est bien ainsi, au fond, la question de la contribution de l'architecture à la vie démocratique qui est posée. Les qualités architecturales des édifices ont pu contribuer à certains moments de l'histoire à la mise en œuvre de politiques sociales nouvelles. La rencontre entre l'avant-garde, les avant-gardes historiques et les politiques social-démocrates des années 20 ou 30, dans les cités d'Amsterdam, de Francfort ou d'ailleurs, est un exemple de cet ordre. À d'autres moments, l'invention spatiale s'est déployée au service d'une commande d'élite totalement indifférente aux questions de la réforme sociale, et elle a pu parfois se mettre aussi au service de politiques conservatrices, voire franchement totalitaires. Je n'élaborerai pas sur cette question, mais les architectes modernes parmi les plus intéressants, je prends l'exemple de Mies van der Rohe, ont été de manière totalement consciente et réfléchie vendre leurs services aux national-socialistes dans les années 30. Il n'en reste pas moins que le principal changement intervenu au XXe siècle n'est pas trouvé dans ces rencontres positives ou douteuses. Le principal changement, je crois qu'il faut bien en prendre la mesure aujourd'hui, il aura été la diffusion sans précédent d'une activité jusque-là réservée aux classes dominantes, l'architecture, et qui s'est étendue à la sphère de la vie quotidienne de tous. L'architecture moderne a ainsi, l'architecture contemporaine, je dirais, a ainsi, qu'on le veuille ou non, fait en quelque sorte une promesse dont les citoyens sont en droit d'attendre le respect. Tenir cette promesse, dont certains épisodes malheureux, je pense aux grands ensembles, ont pu faire douter, suppose, ceci dit, d'échapper au narcissisme, à l'autisme, voire à l'hystérie d'une architecture enfermée dans ses seules valeurs internes, dans ses seuls savoirs internes dont je parlais au début. L'étonnante capacité de renouvellement, de questionnement dont l'architecture moderne témoigne et dont je n'ai donné ici qu'un pâle aperçu, nous montre, je l'espère en tout cas, qu'une telle impasse n'est pas inévitable. Merci.
J'ai été très intéressée par votre exposé, mais vous avez beaucoup parlé de forme et vous n'avez pas parlé d'une chose qui, pour moi, a beaucoup d'importance et qui va faire un petit peu le lien avec une conférence qu'il y a eu ici il y a peu, à savoir le son.
Ah. Voilà. Bien. Alors, je crois que je l'ai dit au début, la mission était impossible. Je crois que les questions du son sont, si je puis dire, sont posées dans l'architecture, notamment au travers du travail de beaucoup d'équipes, beaucoup de laboratoires qui se situent parfois, je pense à l'équipe du Cresson de Jean-François Augoyard à Grenoble, qui se situe à l'articulation des sciences sociales et de l'acoustique scientifique. On sait que l'acoustique est une discipline qui a eu beaucoup de mal à devenir scientifique et qui est très difficile à modéliser. Je crois que l'acoustique est une discipline qui a fait beaucoup de progrès dans l'architecture des édifices publics et notamment dans l'architecture des lieux de spectacle et des salles de concert, que les considérations acoustiques commencent à être prises en compte dans l'étude des espaces urbains, la sonorité des espaces urbains, les phénomènes d'écho, les phénomènes de résonance de telle ou telle, de dureté de telle ou telle surface sont réfléchies. Je pense que ce sont des questions qui sont beaucoup moins étudiées dans le domaine de l'architecture de l'habitation et que les carences acoustiques, voire la violence acoustique de certains édifices contribuent à renforcer les effets de promiscuité. Donc c'est un domaine évidemment très, très important, je dirais extraordinairement délicat et précis techniquement. Donc par modestie, j'éviterai de m'aventurer plus dans ce champ.
Madame, au milieu.
Oui, bonjour. Je voudrais me permettre de rappeler que l'internationalisme en architecture était à un niveau beaucoup moins important qu'aujourd'hui, bien sûr, au Moyen-Âge, quand même quelque chose d'assez général, qu'on songe par exemple au gothique international. Et je voudrais vous demander de nous parler de l'architecture organique comme on a pu la voir il y a quelques mois à Archilab. Merci.
Alors oui, je crois que les architectes du Moyen-Âge étaient nomades. Les carnets de Villard de Honnecourt, qui sont le seul document intime qui nous soit rendant compte des voyages d'un architecte qui nous soit parvenu, nous montrent que Villard allait en Rhénanie, se promenait largement dans l'est de la France. Et ceci dit, la migration du gothique a été une migration lente. Elle a de ses foyers en Europe du Nord-Ouest jusque dans tout le reste du continent, ça a été une migration lente aujourd'hui. Et je crois que ce n'est pas simplement un phénomène des années que nous vivons, mais un phénomène qui commence avec le développement de la photogravure, avec la navigation maritime rapide au début du XXe siècle, avec l'invention des revues d'architecture. Ces phénomènes ont une nouvelle intensité. Alors, la question de l'organique en architecture, c'est une question extrêmement vaste. Archilab, donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette manifestation, est une manifestation annuelle organisée à Orléans à partir des collections du FRAC Centre et avec l'invitation de beaucoup d'architectes innovants du monde. Et on y a vu exposer beaucoup d'édifices qui étaient des édifices ou de projets dont des formes étaient des formes générées informatiquement ou générées par modelage et qui toutes tendaient à casser la boîte orthogonale et à proposer des formes beaucoup plus flexibles envahissant les territoires. Ce sont des formes qui sont aujourd'hui générées avec l'ordinateur, qui retrouvent une certaine nostalgie pour les recherches des années 60. Dans les années 60, c'est pas par hasard qu'Archilab fait voisiner projets contemporains et exposition à la gloire de certains architectes des années 60 qui, à l'époque, en réaction contre les prismes du moderne dominant, fabriquaient des bulles, fabriquaient des amas cellulaires assez provocateurs et donc proposaient des modes de croissance, de génération de l'architecture qui étaient à l'image des organismes cellulaires ou à l'image de certains dispositifs biologiques. Il faut dire aussi, pour compléter ce propos, que la question de l'architecture organique a été posée dans d'autres cadres historiques. Frank Lloyd Wright présentait son architecture comme étant une architecture organique. Pourquoi ? Au moins pour deux raisons. Parce qu'elle était, affirmait-il, parce qu'elle émanait du sol, elle était née à partir du sol et en prolongeait à la fois la matérialité et les rythmes, et par ailleurs parce qu'elle était fondée sur l'idée de croissance, elle aussi. C'est une architecture qui ne restait pas à l'intérieur de ses murs, mais qui potentiellement se dilatait à l'échelle du territoire. Donc la préoccupation de l'organicisme est très importante. Je dirais que l'architecture du XXe siècle, des XIXe et XXe siècles plutôt, s'est développée à partir d'un certain nombre de métaphores fondatrices, et que deux de ces métaphores sont particulièrement importantes. J'ai parlé de la machine au début de mon propos. L'autre métaphore importante est celle de l'organisme, de l'édifice conçu comme un organisme, qu'il s'agisse d'un organisme animal avec son squelette, ses muscles et sa peau, ou d'un organisme cellulaire ou végétal avec ses formes de croissance.
Il a été dit que par l'auditrice là que au Moyen Âge l'architecture était pareille partout. Je ne partage pas du tout cet avis, et même concernant le gothique, c'est pas du tout le cas non plus. Il y a des différences tout à fait sensibles si on va en Angleterre ou si on va en Allemagne. Bon. Mais ce n'était pas mon propos. Je remarque que, par exemple à Paris, ça nous concerne de plus près, quand on a construit l'Opéra Bastille ou le Centre Georges Pompidou, il me semble qu'on n'a pas demandé aux Parisiens s'ils étaient d'accord avec ça. Et c'est une règle générale. Tout ce qui se construit, ça se fait en vase clos entre les architectes et les politiciens. Et puis la population ne fait que subir. D'ailleurs, non seulement on ne lui demande pas son avis, mais elle n'a même pas soin de s'exprimer, de manifester. Alors ma question, la France est actuellement le pays le plus touristique du monde. Et c'est dû à quoi? Est-ce que si à la place de l'opéra du 19e siècle ou du Louvre ou de monuments de ce genre, l'Arc de Triomphe, etc., les monuments les plus visités, si nous avions à leur place tout d'un coup des démolitions, nous construisions à leur place des centres Pompidou, des opéras Bastille, la Défense, des Garmin de Montparnasse, et j'en oublie certainement, est-ce qu'il y aurait une telle affluence touristique?
Intéressante question. Je crois que je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que la fréquentation de certains grands bâtiments récents à Paris n'est pas une fréquentation négligeable. Commençons par le centre Pompidou, qui est quand même une destination touristique. Je pense que Non, pas la bibliothèque. Je pense que beaucoup de... Regardez les autocars garés maintenant sous le centre ou garés rue Beaubourg. Les gens viennent voir ce bâtiment, le photographient, le découvrent parce qu'il a une sorte de valeur de nouveauté qui les intéresse. Je pense que les transformations du Louvre n'ont pas fait baisser sa fréquentation, bien au contraire. Je pense aussi que lorsque nous voyons aujourd'hui certaines destinations touristiques importantes, villes d'Amérique du Nord, villes d'Asie du Sud-Est, quand nous voyons ce qui se passe à Berlin, certains bâtiments qui sont des bâtiments contemporains, qui ne sont en rien mimétiques, c'est-à-dire qui n'imitent en rien les bâtiments historiques, sont des bâtiments qui intéressent le public. Donc il y a une attente du public et je crois une compréhension de la qualité, de l'intérêt de certains de ces édifices. Alors, à part ça, la question que vous posiez avant, que j'évoquais de manière peut-être un peu tangente et très délicate, c'est celle de la discussion publique des grands édifices ou même des programmes d'habitation aujourd'hui. Comment faire en sorte que les points de vue des habitants, des citoyens et ceux des architectes qui travaillent pas simplement sur la forme, mais sur la consistance même de ces édifices, comment faire en sorte que ces points de vue se confrontent à un certain moment. Et là, je crois que les choses sont assez difficiles. Je dirais, elles sont difficiles pour plusieurs raisons. Regardons le Paris qui est autour de nous dans ce quartier. C'est un Paris qui a été construit pour ce qui est des tracés haussmanniens il y a un siècle et demi, ou un peu moins d'un siècle et demi. C'est un Paris qui a été construit pour plusieurs générations. Donc les premiers habitants ne sont pas les seuls destinataires des édifices. Et c'est bien un des grands défis de l'architecture. Il ne s'agit pas de construire pour les destinataires immédiats, il s'agit de construire des édifices qui, dans la plupart des cas, survivront plusieurs générations. Et donc le défi est d'essayer d'intérioriser, de comprendre, d'anticiper sur l'usage, mais aussi sur l'usure des bâtiments dans le temps. Alors, je ne suis pas pour que les architectes soient des dictateurs, mais je veux simplement dire que leur responsabilité est d'anticiper sur ces transformations dans le temps. En matière d'habitation, je crois qu'il y a, et ne soyons pas totalement pessimistes, des expériences extrêmement intéressantes de discussions entre architectes et habitants sur la configuration interne des immeubles, ça existait, sur certains éléments des dispositifs extérieurs. Ce sont des pratiques qui consomment énormément de temps, énormément d'argent, et qui mettent souvent en cause, bien plus que les architectes, ces personnages dont je n'ai pas beaucoup parlé, et qui sont les promoteurs, les maîtres d'ouvrage, les clients, ceux qui sont aussi les partenaires des habitants et des citoyens.
On va prendre les deux dernières questions, monsieur.
Ma question voudrait se borner à Paris et aux monuments. Ça rejoint un peu ce qui a été dit, mais il y a un aspect qui n'a peut-être pas été dit, c'est le fait qu'il y a plusieurs solutions. Ou bien on détruit le monument précédent et on en construit un nouveau, ce qui a été fait au Trocadéro, et je crois que ça c'était bien, mais ça aurait pu être mal. Il y a le fait d'incorporer à l'intérieur de bâtiments très anciens et très valables des nouveautés, comme ce qui a été fait pour les colonnes de Buren, comme la pyramide du Louvre. Et il y a le fait de construire des nouveaux, comme ce qui a été fait pour la Bibliothèque nationale et pour le quartier de la Défense. Alors, on pourrait peut-être, faire participer les citoyens, non pas à tout, mais au moins à, au problème de, d'une option en faveur ou contre l'une des trois solutions.
Oui, je crois que cette hypothèse du référendum populaire sur les bâtiments n'est pas une mauvaise idée, et qu'en effet, on peut rêver d'un monde dans lequel les décideurs auraient le courage de s'adresser à la population. Je crois que c'est dans le monde contemporain l'exception. Je ne vois pas pourquoi le monde de l'architecture aurait peur d'une telle confrontation. Ceci dit, il est clair qu'une telle confrontation, elle court immédiatement, elle risque d'entraîner immédiatement à une très grande frilosité. Pourquoi ? Parce que autant il est possible pour les Parisiens d'aujourd'hui de comprendre les édifices qu'ils voient, qu'ils connaissent, auxquels ils sont attachés, ils font partie de leur paysage familier, les expériences de leur vie quotidienne, de leur enfance ou de leur jeunesse, ou de leur expérience quotidienne s'y rattachent. Autant donc cet attachement est, je dirais, presque automatique, autant la compréhension de l'apport que peut avoir un bâtiment nouveau est très difficile. Pour beaucoup de raisons, les codes de l'architecture sont difficiles à lire. J'en veux pour preuve les expériences que j'ai eues dans des jurys de concours où les élus, qui sont des citoyens comme les autres, se faisaient bluffer par des images, ou au contraire, par des images chatoyantes et prenaient des projets dangereux. On peut penser que Mitterrand, dans le choix du projet de Dominique Perrault pour la Bibliothèque nationale, a été séduit par une sorte d'idéogramme assez naïf, les quatre livres ouverts et le palais royal au milieu. Inversement, certains projets peuvent être rejetés parce que leur complexité n'est pas comprise. Donc je crois que la question qui est posée est, je dirais, celle de la construction de la compétence des citoyens en matière d'architecture. Les citoyens ou les Parisiens savent, je dirais, que choisir quand ils vont au théâtre, au cinéma ou au restaurant. Ou en tout cas, ils ont des points de repère. Ils savent qu'ils seront systématiquement en désaccord avec telle critique de cinéma et qu'en général, ils sont plutôt en accord avec telle critique de théâtre dans un journal ou dans l'autre. En matière d'architecture, les références sont inexistantes. Donc je crois que la question, elle est, pour arriver à se poser ce genre de problème, celle d'un partage plus élargi de la culture architecturale, et elle suppose beaucoup de mesures dont on parle depuis longtemps, une présence de l'architecture à l'école, et l'architecture contemporaine aussi, une présence dans les quotidiens et à la télévision de rubriques régulières, et pas d'émissions annuelles où on confond tout, au lieu précisément de prendre l'habitude de parler des bâtiments, d'essayer de comprendre au travers d'un projet comment un bâtiment peut en émerger. Je crois que ce sont ces très difficiles questions de la construction de la compétence des habitants à parler aux architectes et inversement de la compétence des architectes qui ont tendance en général à penser que les habitants ou les citoyens sont de grands enfants qu'il faut mener par le bout du nez. Il s'agit aussi de construire leurs compétences, eux aussi, à dialoguer.
Dernière question.
Oui, bonjour, monsieur. Considérant le fait qu'effectivement, il y a eu des nouvelles architectures du fait des nouveaux matériaux, je pense qu'il y a eu une influence des matériaux sur la qualité de l'architecture. Je pensais à autre chose. Quand vous nous aviez parlé de l'exemple de Francfort, etc., où moi, j'ai vécu 4 ans et demi à Francfort, je peux vous dire qu'il n'y a pas une grande architecture. Il y a toujours les mêmes baraques. Il n'y a qu'une chose qui différencie les baraques les unes des autres, c'est la couleur. Alors, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que la couleur fait partie de l'architecture ? Merci pour dimanche.
Bien. Bon, je crois que vous l'avez vu, en dépit des déficiences de cette projection, que ces édifices étaient colorés. Donc il est évident que la couleur fait partie de l'architecture. La couleur ne remplace pas l'architecture. Encore une fois, la couleur maniée de manière hystérique dans les campagnes de peinture des villes, de rafraîchissement de telle ou telle ville avec des couleurs vives, vient plutôt souligner la médiocrité des bâtiments, hein, un effet de camouflage. Alors, vous me parlez de Francfort. Ce qui m'intéresse à Francfort, c'est deux choses. Hein, c'est les grandes cités jardins des années 20 qui restent de magnifiques ensembles d'habitations à bon marché dont les habitants ne veulent pas partir. C'est quand même un test de popularité. Et puis, par ailleurs, Francfort était une ville. Vous savez que son surnom, c'était Bankfurt. Hein, et pas Francfort, parce que c'était une ville considérée comme cyniquement économiste, et donc la construction d'un réseau de musées a tendu à contredire cette image. Donc c'est une ville dans laquelle on trouve quand même des choses intéressantes. Je pense que la couleur est un attribut très compréhensible de l'architecture, un de ceux que le public comprend le mieux. Mais que ce n'est qu'un des attributs de l'architecture, un de ceux sur lesquels il est le plus facile de causer. Le rouge, les couleurs vives du Centre Pompidou, le vert, le blanc, la politique de la ville de Lyon qui a tendu à uniformiser le paysage urbain en utilisant partout, sur les menuiseries et sur les détails des bâtiments, un bleu particulier. Donc ce sont des éléments de débat et il est facile de mettre en œuvre des politiques de couleurs. Qu'il s'agisse de souligner le bâtiment ou de les camoufler. Je pense là au travail de tous les architectes du dispositif patrimonial qui essayent d'éviter les maisons blanches et de transformer la France en un pays ocre jaune ou beigeasse. Mais je pense que ce n'est qu'une des dimensions de l'architecture et malheureusement trop souvent une sorte de mesure défensive contre les empiétements d'édifices mal compris.
Merci.